un petit peu spécial. Je me souviens pas d'avoir entendu parler de Judas, puis pas comme ami. C'était peut-être un petit peu lourd comme sujet. Tu sais, quand on pense à des noms, Judas, il est pas mal connu. Et puis, connu en mal. Et puis, j'ai déjà vu des gens qui s'appelaient Caïn, Jézabel. J'ai entendu parler d'une Jézabel. Mais Judas, de voir des parents qui donnaient le nom de Judas à leur enfant, ça, je l'ai pas vu encore. En tout cas, pas au Québec. C'était vraiment peut-être l'ultime loser, on pourrait dire, mais même si c'est lourd un petit peu, je pense que la Bible nous transmet ces informations-là, et je pense que c'est utile. Mais j'aimerais ça qu'on prie avant pour demander au Seigneur qu'il fasse un travail spirituel dans chacun de nous, dans moi aussi. Et que ces leçons-là, ces textes-là qu'on va lire de la Bible puissent être profitables. On va prier. Merci Seigneur grand Dieu que c'est vrai, tu es infiniment grand. Ton amour durera toujours. Et on veut t'adorer, t'élever. Et on reconnaît en nous des créatures fragiles. Et on fait appel à toi maintenant pour demander ton aide, pour entendre ton aide, pour parler, ton aide pour appliquer aussi ces vérités-là à chacune de nos vies. Seigneur, on n'a pas les mérites pour te faire cette demande, mais Jésus a les mérites. Et on a le nom de Jésus qu'on invoque maintenant pour que tu nous parles. Amen. Donc, c'est ça. C'est la pointe du iceberg. Et puis, il y avait aussi la base du iceberg qu'on va essayer de regarder. Dans le cœur de Judas, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il en était? C'est quoi ce phénomène-là? Mais si on commence ici avec la pointe, on voit que, là, je sais pas pourquoi, mais ça coupe un petit peu une partie du texte. Fait rien, on va essayer de se débrouiller avec ça. Judas était un homme capable, attachant, et ne laissait supposer aucun problème. C'est ça que j'aimerais qu'on voit dans les versets, là, que Judas, c'était pas là un gros méchant. Il y avait rien qui paraissait de son identité. On voit dans le texte, là, je pense que c'est dans Matthieu, que Jésus, moi je le lis ici, là, Matthieu 10, Jésus appelle ses 12 disciples. Donc, il en appelait les douze étaient envoyés pour chasser les mauvais esprits et de guérir toutes les maladies et toutes les douleurs. Mais Judas était dans la gang. Judas était un des 12. Judas est parti. Judas, ça a l'air, il y avait, qu'on voit ici, là, et Judas Iscariote, celui qui va livrer, faisait partie du groupe. Et puis, avait été avec Jésus 24-7, OK, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 3 ans, pas de vacances avec Jésus. Pour autant que l'on puisse en juger sur la base de ce texte, il a été envoyé prêcher la bonne nouvelle de Jésus de village en village. Il a reçu la puissance pour faire des miracles. Et puis quand ils sont revenus ici dans Luc, on lit les disciples, ça dit pas les disciples sauf un, partent et vont de village en village, surtout annoncent la bonne nouvelle, guérissent les malades, les apôtres reviennent et ils racontent à Jésus tout ce qu'ils ont fait. Jésus les amène loin des gens vers une ville appelée Bethsaïda. Et là, on les voit ici là qui envoient là, dans les villes pour annoncer la bonne nouvelle. J'aimais ça, ce petit dessin-là, faire dans des jeunes. Là. Certains vont, ils sont bien accueillis. D'autres qui annoncent, oui, il y a des jugements à venir. S'ils guérissent des malades, chassent les démons. Et s'ils sont mal reçus, puis on voit qu'ils laissent tomber la petite poussière de leurs sandales. Mais Jésus, Judas, quand il est revenu, il a pas dit, « Ouais, mais je sais pas, moi, ça a pas marché. J'essayais ça au nom de Jésus, puis il me semble que ça marchait pas, ça buguait. Je sais pas quoi, détails techniques. Puis non, Judas, aucune différence. Ça marchait pour lui. C'est quand même spécial. Fait qu'il y avait rien qui laissait transparaître. Et si on continue un petit peu à regarder ça, il dit Jésus, là, au dernier repas, là, l'un de vous va me livrer. Les disciples se regardent les uns les autres, ils ne savent pas de qui Jésus veut parler. Il n'y en a pas un qui a dit, « Oh, moi, je m'en doute. Là, ça fait une couple d'années, là, je le regarde aller, ce gars-là. Là, Pour moi, c'est Judas. Jésus dit à Judas, « Fais vite ce que tu dois faire. » Parmi les disciples qui sont là, personne ne comprend pourquoi Jésus dit cela. Et là, il allait donner de l'argent aux pauvres, parce que c'est lui qui tenait la bourse. Judas prend donc le morceau de pain, et aussitôt, il sort de la maison, c'est la nuit. Ils furent profondément attristés de ce que quelqu'un allait livrer, et chacun se mit à lui dire, à Jésus, « Est-ce moi, Seigneur, qui va te livrer? » C'était plus facile pour les onze de se soupçonner eux-mêmes. Jamais l'idée leur a passé à travers la tête que peut-être ce serait Judas. C'était plus facile de penser qu'eux-mêmes seraient le traître. C'est ça. Judas était au-delà de tout soupçon. Là, j'aimais ça, cette image-là. Tu sais, c'est-tu moi? Puis là, chacun se pose des questions. Ben, voyons donc. Puis le malaise qui touche toute la gang. Mais qui soupçonne pas Judas. Je ne parle pas de vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis, mais ce qui est écrit dans les livres saints doit se réaliser. Et là, on annonce une prophétie. C'est Jean qui dicte cette prophétie-là. En fait, on lit « Celui qui partageait ma nourriture est devenu mon ennemi. » Et ça, ça vient du psaume 41:9, que dans le contexte, elle dit « J'avais confiance dans mon meilleur ami. Il partageait ma nourriture. Eh bien, même lui, il est devenu mon ennemi. » Mais c'est ça que Jean cite comme texte concernant Judas. Comment il l'appelle? Mon meilleur ami. Et donc, là, on va regarder un petit peu, mais comment ça se fait? Puis moi, ça me rend, je me pose des questions, un malaise, comme eux autres, comme les onze. Ça va-tu un jour m'arriver ou quoi? Ou, je ne sais pas, je suis tout seul, mais voyons donc. C'est quelqu'un aussi connecté que Judas. Mais on va essayer de voir, de comprendre un petit peu. Donc, toute cette thématique-là d'un apostat, c'est ça que Judas était. Il a abandonné, il a très bien connu, il a bien annoncé, et il a délaissé, il a abandonné. Puis on en rencontre hein, à toutes les strates de la vie chrétienne. Les petits chrétiens normaux qu'on rencontre, avec qui on évolue, puis d'un coup, il ne vient plus, il est parti. Il y en a un dernièrement, je parlais cet été, tout rejeté, même la notion de Dieu. Non, Dieu n'existe plus. Puis là, il me parlait des guerres, il me parlait de tous les arguments classiques contre l'existence de Dieu, moral, de l'Ancien Testament. C'est beaucoup contre l'Ancien Testament, mais il avait tout balancé ça. Quelqu'un dans ma famille aussi, qui était chrétien pendant longtemps, qui a tout balancé ça. Puis ça nous remet tout le temps à l'envers, cette réalité-là. Et Jésus veut qu'on en soit conscient et au courant. Et c'est ça le but du message aujourd'hui. Et de voir ici que Judas avait une conscience endurcie. Et ça, c'était donc le contexte là où est-ce qu'il va le livrer. Judas, celui qui le livre, a déjà expliqué à la foule ce qu'il va faire. Il leur dit, « L'homme que je vais embrasser, c'est lui. Arrêtez-le, poignez-le. Pas de sympathie, poignez-le. » C'était agressif dans le texte. Arrêtez-le. Dans le fond, moi, j'ai 30 pièces d'argent là, que j'ai misées sur sa tête. Laissez-le pas sauver. Arrêtez-le. Les affaires sont les affaires. Jésus s'approche Judas s'approche tout de suite de Jésus en disant, « Salut, maître! » Et il l'embrasse. Puis apparemment, dans le texte, je connais pas le grec, OK? Mais c'était un gros bec, là, tu sais. Avec effusion puis affection. Jésus lui dit, « Mon ami, fais ce que tu dois faire. » Alors, les gens s'approchent, et ils mettent la main sur Jésus et ils l'arrêtent. Là, de voir ça ici, Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Je sais pas pourquoi il a dit ça, tu sais. Il devait pas être surpris. J'imagine qu'il connaissait tout ça. Mais on dirait qu'il y avait quelque chose de scandalisant même pour Jésus là-dedans. L'hypocrisie. Le baiser est un symbole universel d'affection sincère. Mais même la surprise, le choc, ben voyons donc. Tu sais, même Jésus semble exprimer une surprise de ce geste-là. Que les artistes ont beaucoup dépeint. Mais il n'était pas quand même illusionné ou trompé au sujet de la véritable identité de Judas. On voit ici, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? L'un de vous est un démon. » Il savait très bien, c'est un démon. Ce n'est pas un chrétien rétrograde, c'est un démon. Et il dit, « Je sais fort bien quels sont ceux que je me suis choisi, mais je sais que doit se réaliser. » lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. C'était pas un fils de Dieu, un fils adoptif, c'était le fils de la perdition. C'était très clair. C'était pas un chrétien qui a perdu son salut, c'était un démon, le fils de la perdition. Et là, c'est de comprendre un petit peu le raisonnement de Judas. Il savait, lui, qu'il était hypocrite. Il savait son jeu. Peut-être qu'il y en a qui sont illusionnés, mais Judas savait très bien. Et puis, vous vous souvenez peut-être de l'histoire. Je vais assez rapidement parce que c'est des histoires qu'on connaît assez bien. Et puis là, c'est quand la dame a répandu un parfum. On la voit ici, là, sur les pieds de Jésus. Et puis, lui avait dit, il fallait vendre ce parfum pour 300 pièces d'argent et donner de l'argent aux pauvres. 300 pièces d'argent, une pièce, c'est le salaire d'une journée pour un ouvrier régulier. Fait que 300, c'est comme le salaire d'une année. Je sais pas combien gagne un ouvrier régulier, mettons 30 000 piastres, mais 30 000 piastres de parfum. Hey, là, ça commence à être pas mal d'argent. Et là, on lit, Judas ne dit pas cela parce qu'il pense aux pauvres, mais parce que c'est un voleur. C'est lui qui garde le porte-monnaie et il prend ce qu'on met dedans. Puis là, Jésus, il le remet à sa place. Laisse-la tranquille. Elle a fait cela d'avance pour le jour où on me mettra dans la tombe. Vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Et là, ça l'a bogué, ça. Il l'a comme pas pris. Puis la cagnotte était trop grosse. 300 pièces d'argent. Y as-tu pensé ce gaspillage-là? Parce que pour lui, Jésus avait peu d'importance. Ce qui est triste aussi, c'est que les autres disciples aussi ont dit la même chose. Mais c'est une question d'argent. Fait qu'il devait être très conscient de son hypocrisie. Quand tu voles, là, c'est pas que tu le sais pas. Il y a ce péché-là qui te domine, dont tu es esclave, et il en était conscient. Jésus avait dit pour lui, tu sais, nul ne peut servir deux maîtres. Judas était là, il entendait ces choses-là. Puis en relisant plusieurs passages des Écritures qui avaient dit, je pense, pour Judas, pour les apostats, pour les appeler à la repentance, j'ose croire. Fait qu'il semblait suivre Jésus pour tirer profit de sa popularité, de sa puissance, puis de l'argent. Tu sais, s'il y avait un Messie qui s'en venait, qui allait être roi, puis on le connaît, ben peut-être qu'on voudrait être son ami, puis qu'on voudrait, hey, là, il m'a choisi pour être un des douze de ses collègues, proches. Ben moi, ça m'intéresse. Puis là, je veux rentrer là-dedans. On va aller loin ensemble. Puis là, je veux pas manquer ça, ce train-là. Tu sais, le train va passer, puis c'est l'occasion de ma vie. Et puis, il y avait un calcul comme ça. Il entendait son enseignement, mais il était comme aveuglé par son ambition. Ça lui rapportait. C'était très utile pour lui, pour son avancement personnel. C'était calculé. C'était conscient. Et il jouait un double jeu. Quand tu voles puis t'emmènes dans tes poches, c'est sûr que tu le fais pas devant tout le monde. Tu sais que c'était pas correct. Lui, il savait. Et par la suite, bon, il y avait ça comme point de départ, mais par la suite, il a perdu le contrôle de la situation parce que Satan l'a utilisé, puisque Judas lui avait laissé une porte ouverte. Puis si on tolère le péché, on se juge pas de ça. J'ai des pensées impures. J'ai des tentations. Puis là, ce que ça me dit là-dedans, faut que je m'en juge tout de suite. Faut pas que je les entretienne. Je laisse une porte ouverte à l'ennemi. Donc, c'était comme, ça me faisait penser à notre petit Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, c'est ça, hein? Ça fait longtemps. Et là, c'est ça, j'avais parlé de l'événement déclencheur, là, quand Marie de Béthanie est venue répandre ce parfum-là dans un acte d'adoration extravagant. C'était beau. Il n'y a rien de trop beau pour toi, Jésus. Toutes ces économies, 30 000 $. Ah ouais, let's go. Puis si j'avais eu plus, je l'aurais répandu plus. Pour honorer Jésus, il avait ressuscité son frère Lazare, mais aussi, c'était le Messie, celui, la résurrection et la vie, c'est toi. Puis là, elle avait une admiration sans borne pour Jésus. Et là, elle répand le parfum à ses pieds, sur sa tête aussi. Et puis là, Jésus rajoute, là, je vous le dis en vérité, partout où on annoncera cette bonne nouvelle, dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et on se souviendra d'elle. Puis il a raison, hein, l'histoire s'est pas perdue au cours des millénaires. Alors, puis là c'est dit ça, alors, à cause de ça, là, à cause de ce qui est arrivé, l'un des 12 appelé Judas va voir les chefs des prêtres. Là, c'était comme trop. Judas avait un profit à tirer de cette, un profit calculé de cette relation avec ce Messie-là. Mais là, t'as une minute. On vient de perdre 300 pièces d'argent. Puis là, ce gars-là, il parle d'aller à Jérusalem. Il est en conflit avec les autorités. Et d'aller mourir, il nous l'a annoncé. Moi, là, je débarque. Ça marche plus. Et donc, c'est ça. Alors, c'était un événement déclencheur. Il va voir les chefs des prêtres. Il leur dit, qu'est-ce que vous voulez me donner si je vous livre Jésus? Jésus et ses disciples prennent sur eux pour recevoir l'esprit du mal est déjà mis dans le cœur de Judas de livrer Jésus. Et on connaît la suite, hein? Il va les voir pour négocier. Il est habile. Moi, je vais m'en tirer encore un petit peu de profit de cette histoire-là. Je sais comment tirer des ficelles. Et puis sa fin, on la connaît. Il y a eu un regret, un remords intense. Et puis, qui a fini par aller se pendre. Donc, ça, c'est l'exemple de Judas. Et j'aimerais qu'on regarde, c'est un sous-ensemble un peu de l'apostasie. Un rejet total et définitif de l'Évangile, de Dieu, de Jésus, des choses qu'on a connues, parce qu'il faut connaître pour rejeter. Et qu'on se détourne, qu'on abandonne. Et c'est un peu le sujet de ce matin, de regarder, oui, mais t'as mis une note, c'est quoi? Parce que la Bible en parle beaucoup. C'est comme pour dire, sois pas surpris, ça fait partie de la game. Sur l'identité de l'apostat, et j'aimerais qu'on regarde, c'est la parabole de l'ivraie. Rapidement ici, on va la lire et puis il y a quelques principes à retirer. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. » Et on voit ici donc, ça c'est le blé, ça c'est l'ivraie, quand c'est petit, ça se ressemble, c'est à s'y méprendre. C'est très difficile de faire la différence. Mais c'est quand que ça pousse que là, on voit bien la différence. Puis là, ça revenait d'ici, ça, la revue Hebdo, Rive-Nord. Où est-ce que c'est dans Wikipédia que ça dit, là, c'est pas chrétien, là, l'ivraie enivrante, le nom latin, est la seule graminée dont les graines sont toxiques à haute dose pour l'homme. Consommée en petite quantité, elle induise des effets comparables à l'ivresse, d'où son nom populaire. Cette plante est probablement celle désignée par la formule employée dans les évangiles, séparer le bon grain de l'ivraie. Donc, ça semble être ça. Donc, c'est toxique. Puis là, de voir, il n'y a pas juste semé une graine, hein, l'ennemi, qui est inutile. C'est une graine qui, à sa base, c'est copie-collée avec le vrai. Fait que ça a ça comme faculté. Et à maturité, c'est toxique, c'est néfaste. Les serviteurs du maître de la maison, on continue la parabole ici, vinrent lui dire, « Seigneur, tu n'as pas semé une bonne semence dans ton champ. D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Ça se ressemblait trop. « Laissez croître ensemble, ensemble. » Les deux grandissent ensemble et s'accommodent très bien. Ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson. Je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe, puis pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, il va avoir ici dans le blé dans les greniers et l'ivraie qui est brûlé. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, on n'a rien compris. « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, là, il va tout donner les codes, un petit peu, pour comprendre. C'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. » Sur l'identité, donc. « L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. » Et je trouvais ça intéressant ici que même les anges ne peuvent pas faire la différence entre le vrai et le faux. Entre les fils du malin puis les fils du royaume. Il dit, touchez pas à ça, vous allez gaffer. Je sais que vous êtes des anges, vous n'êtes pas masmates, mais vous n'êtes pas capables. Donc, on a nos deux semeurs ici. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Fait que dans son royaume, il y a des scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Dans son royaume. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc il y a des anges qui vont moissonner. Et les principes, donc, à retenir de ça. De peur qu'ils arrachent, qu'en arrachant l'ivraie, ça nous dit que l'apostat ressemble au vrai. Pendant la croissance, à l'époque de la moisson, avec le temps, il se distingue par ses fruits lorsque ceux-ci arrivent à maturité, et on sait que ses fruits sont toxiques. Laissez-les croître ensemble, l'apostat se sent à l'aise dans l'Église parmi les chrétiens. Laissez-les croître ensemble. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Les apostats ne sont pas des chrétiens rétrogrades, ce sont des faux. Mais qui sont dans l'Église, parmi les chrétiens. Ils arracheront les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Son fruit est toxique, les scandales et l'iniquité. L'apostat ne persévère pas dans la doctrine et ou la marche chrétienne. Il y a une question de persévérance ici. Ça va jusqu'à là? Ça suit? Il y a plusieurs textes comme ça, mais en les mettant à l'écran, peut-être ça va aider à tout avaler, là, à tout absorber le texte. Et là, j'avais fait un lien avec Hébreu, un texte que j'ai souvent trouvé très difficile à comprendre. Mais en faisant un lien ici avec Judas, ça m'avait aidé. Prenons le cas de ceux qui sont retombés dans leur ancienne vie. Donc, les apostats qui sont retombés. Ils ont été éclairés par la lumière de Dieu. Judas avait été éclairé par la lumière de Dieu. Ils ont goûté au don du ciel. Ils ont reçu l'Esprit Saint. Hein, on dit, voyons donc, quelqu'un qui reçoit l'Esprit Saint, qui ont eu part au don du Saint-Esprit, que c'est dit dans une autre version. Ça ressemble à un chrétien, ça. Mais là, Judas, quand il avait reçu le don de guérir, puis tout ça, puis de chasser les démons, ben, il avait eu part, certainement, à la puissance du Saint-Esprit. Ils ont aimé la belle parole de Dieu. Ils ont senti la puissance des forces du monde qui vient. Et pourtant, ils sont retombés dans leur ancienne vie. Ces gens-là, on ne peut pas les ramener une deuxième fois à changer leur vie. En effet, ils clouent de nouveau le Fils de Dieu sur la croix et ils donnent aux autres l'occasion de l'insulter. C'est ce que Judas a fait. Prenons l'exemple d'un champ. Et là, ça va parler des fruits, qu'on va voir à la fin avec les fruits. C'est comme ça qu'on arrive à faire la différence. Sa terre boit l'eau de nombreuses pluies qui tombent. Elle produit des plantes utiles à ceux qui la font cultiver. Alors, Dieu bénit cette terre. Mais si elle produit des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. C'est pas toxique, là, mais c'est négatif. Dieu va bientôt la rejeter. On finira par y mettre le feu. C'est ça. Donc, les qualificatifs qu'il donne, c'est ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté des dons célestes, sont devenus participants de l'Esprit-Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir. Judas pouvait se prévaloir de tous ces avantages. Et là, c'est intéressant de voir, parmi ces qualificatifs-là, jamais l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'utilise des termes clairs qui auraient pu indiquer que ces gens étaient vraiment des chrétiens. Le texte ne dit pas, par exemple, ceux qui ont été régénérés. Là, s'il avait dit ça, là, ça aurait pas marché. Régénérer, une nouvelle vie, une nouvelle naissance, né de nouveau, justifié, rendu juste devant Dieu, sanctifié, pardonné, sauvé, adopté, élu. Jamais il les appelle comme ça. Mais c'est quand même tous des énormes privilèges d'avoir super bien connu et d'avoir rejeté, qui sont retournés. Dans 1 Jean 2, 19, c'est un autre passage qui parle un petit peu de gens qui fréquentaient l'Église, peut-être baptiste de Trois-Rivières. Ces gens-là sont partis de notre communauté, mais ils n'étaient pas nos frères et nos sœurs. S'ils avaient été nos frères et nos sœurs, ils seraient restés avec nous. Je sais qu'il y en a qui déménagent, puis c'est correct. C'est pas ça l'idée, là, mais c'est de tomber, se détourner, renier, c'est de ça dont on veut parler, calmez-vous. OK? Maintenant, c'est clair, ces gens-là n'étaient pas nos frères et nos sœurs. Donc, il identifie que oui, il y a cette notion-là, cette réalité d'apostasie. Donc, on a parlé un petit peu ici de l'identité. J'aimerais ça qu'on regarde des exemples. Et là, c'est un petit peu délicat. Je veux pas me permettre de porter un jugement sur quelqu'un. Même les anges font des erreurs. Mais il y en a peut-être qui l'ont dit clairement, qui sont décédés, qui ne se sont pas repentis, puis ça a l'air un peu plus évident. Mais OK, c'est beau. Apprenons de ces exemples-là. On a Satan. Satan lui-même, qui a connu, c'était le chef des anges élevé en gloire, un chérubin glorieux, qui s'est enorgueilli et qui s'est détourné, qui a tombé. C'est un exemple d'apostat. Et puis, il y avait ce monsieur-là, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà connu. Moi, ça m'étourdit quand je lis son histoire. Charles Templeton. C'était un gars, là, il travaillait avec Billy Graham. C'était pas... Lui c'est Charles Templeton, puis le jeune Billy Graham. C'était pas Billy Graham et Charles Templeton, c'était Charles Templeton et Billy Graham. Le plus talentueux entre les deux, c'était Charles Templeton. Le plus doué, le plus captivant, le plus intéressant, puis son adjoint, Billy Graham. Et là, c'est qu'il allait faire un grand voyage d'évangélisation, il adressait des foules qui étaient suspendues à ses lèvres. Et là, il y a eu deux destinées. Il connaissait l'Évangile. Et puis là, il est arrivé, là, Templeton denies faith. Famed Christian evangelist. Là, qui renie la foi. Il a tout basculé. Puis c'était comme un grand édifice qui... Badin! Puis là, ça a fait un scandale dans le temps. Je pense que c'était en 50. Quelque chose dans les années 50, là, je veux pas... Puis il est devenu un annonceur à la radio ici à Toronto, bien connu, puis il a eu du succès, puis en tout cas, c'est un gars super talentueux. Et il écrit un livre, Farewell to God, My Reasons for Rejecting the Christian Faith. C'était catégorique. C'est qui le gars de The Case for Christ, là? Heibel? Non, pas. Oui, c'est ça. Il était le rencontrer et faire une entrevue, en tout cas. Je n'allongerai pas, là. C'était bon. Vous pouvez voir ça sur Internet. Mais, tu sais, il y avait une petite larme et tout ça. « Ah, je m'ennuie de Jésus », qu'il avait dit. Il savait qu'il y avait quelque chose de bon là-dedans. Puis là, il y a comme un regain là, de « OK, on continue ». Puis là, ça a mis fin à l'entrevue pas longtemps après. Mais qui avait connu proche, clairement, qui avait des amis. Puis quand il parlait de Billy Graham, il dit lui, c'est un vrai. Lui, là, lui, il est sincère. Et qui avait un respect, qui connaissait tout, je pense, en tout cas. Et qui se détourne. Aussi, de penser, comme exemple, donc, d'apostat, notre société occidentale rejette la connaissance qu'ils ont eue de Jésus. Je pense à la charte de la laïcité, hein. Là, c'est juste une étape parmi un long processus. On avait des écoles chrétiennes, on avait des écoles catholiques, avec la connaissance qu'il y avait, mais ce peu de connaissance-là, non, on le veut pas, on chasse ça. Et que ce soit aussi les musulmans, non, aucun signe religieux. Et moi, je peux dire, en tout cas, je n'entrerai pas là-dedans. On va continuer, on comprend l'idée, là. Et ça l'annonce bien, le mot apostasie est bien dans la Bible, c'est d'abandonner, délaisser, car il faut que l'apostasie soit arrivée, que personne ne vous séduise d'aucune manière, ça va venir, surprenez-vous pas, il y aura et on voit, les vrais chrétiens, ceux qui s'en tiennent à la Bible, en tout cas, ça en proportion, ça diminue. Puis d'autres groupes, ça va bien, ça se maintient, en tout cas, ça se multiplie. En termes de variété de groupes. Dans 2 Pierre, un autre passage qui nous parle d'apostat et puis de gens qui vivent dans le milieu des chrétiens, ces gens-là sont comme des animaux. Là j'ai coupé un petit peu le texte qui venait avant, là, mais sans intelligence, fait pour être pris dans des pièges et pour être tués. Ça regarde pas bien. Ils insultent ceux qui ne connaissent pas en parlant des anges et des gloires, et ils mourront comme ces animaux. C'est la punition qu'ils vont recevoir pour leurs mauvaises actions. Ils aiment satisfaire leurs désirs mauvais. Fait qu'il y a cette chair-là qui est pas remise en question, qu'on a tous, que j'ai moi aussi. Puis la vieille nature, des fois, c'est pour ça que j'avais dit mon ami Judas, parce que des fois, je me reconnais là-dedans. J'ai même tentation. Pierre aussi, il a quand même renié Jésus 3 fois. C'est quoi la différence? Il se ressemblait beaucoup. Judas, oui, il a peut-être été un petit peu loin, mais ces combats-là intérieurs, il les jugeait pas. Et de voir que quand ça porte du fruit, il y a comme une variante d'erreur doctrinale qui va sortir, puis une autre variante de corruption morale. Et là, on va voir ici, satisfaire leurs désirs mauvais en plein jour. Quand ils font la fête avec vous, sont bien avec vous. Ils prennent plaisir à vous mentir, puis se jugent pas de ça. Et leur présence est dégoûtante et honteuse. Leurs yeux ne font que chercher des femmes. C'est ça que je parlais de corruption. Puis on en voit, là, sur Internet, c'est plein. Si on regarde Wikipédia, là, des fake Christians, là, tu sais, ils vont t'en sortir, là. Il est classe par ordre alphabétique, puis par catégorie, puis de scandales à caractère sexuel. Puis pas des petites affaires, là. C'est le gars, le président, là, de l'Association des évangéliques des États-Unis. 30 millions d'évangéliques, là, qui, c'est pas qu'il sort avec une femme d'un autre, il sort avec un homosexuel en prenant du crack. Tu sais, c'est tabarnouche. Chercher des femmes, pauvre Pierre, tu l'as pas rencontré, lui. Ils ont toujours envie de commettre des péchés, ils attirent ceux qui sont faibles, ce sont des hommes qui cherchent toujours à gagner quelque chose. Il y a l'argent, un profit pour moi. Puis check, les plus faibles, ok, hein. Non, c'est le fun. J'aime les chrétiens, moi, c'est le fun avec eux autres. Et puis, je me sens à l'aise avec eux. La malédiction est sur eux. Et puis, on a connu peut-être, tu sais, la repentance, là, tu sais, avec larmes devant la télé. En tout cas, comme je disais, là, je veux pas allonger sur d'autres, et puis, c'est délicat, mais il faut pas être naïf non plus. Et puis, Une des conclusions, là, je saute un petit peu en avant, c'est de pas se juger entre nous. Non, je pense que lui, là, oh oui, je m'en doutais bien. Hein. Puis là, non. Si les anges sont pas capables d'identifier, commençons pas ça, là. Et puis, prions pour le bien. Puis oui, quelqu'un peut se détourner. Puis peut-être c'est un chrétien rétrograde aussi. Puis il faut prier. Puis oui, on va juger aussi. Puis si tu fais ça, on va mettre sous discipline, puis c'est correct aussi. Mais... Donc, de ne pas présupposer l'apostasie. C'est ça que je veux dire. Donc, oui, avec leur discours ronflant, parlent super bien. Comme ce gars-là, Charles Templeton, c'était un conteur. Complètement creux. Ils attirent ceux qui viennent à peine d'abandonner. Là, checkons ça aussi, OK? Là, s'il y a un effet, quand on parlait d'un effet toxique, ils attirent ceux qui viennent à peine d'abandonner la vie avec des gens dans l'erreur. Ah, c'est-tu des chrétiens qui vont attirer? Pour cela, ils se servent des désirs honteux du corps et ils leur promettent la liberté à ceux qui viennent à peine d'abandonner. Pourtant, eux-mêmes sont esclaves des plaisirs qui les détruisent. Fait qu'ils sont esclaves. Il y a une domination du péché sur eux. Il n'y a pas la nouvelle vie en eux et ils s'en sont esclaves. En effet, quand une chose nous domine, nous sommes ses esclaves. Ceux qui connaissent Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, c'est bon, c'est-tu des chrétiens dont on parle ici? Et ils ont abandonné les mauvaises influences du monde. Hein, ça leur aide bien. Mais ils peuvent se laisser reprendre et se laisser vaincre par elles. Fait que là, ils parlent de ceux qui viennent à peine d'abandonner la vie avec des gens. C'est ceux qui connaissent, qui ont abandonné. Alors, leur situation est finalement bien pire qu'avant. Ah ouais. Ils ont connu le chemin qui mène à la justice. Ils ont connu le salut. C'est-tu des chrétiens? Mais ils l'ont abandonné. Ils ont abandonné les commandements de Dieu qu'on leur avait appris. Dans ce cas, il aurait mieux valu qu'ils ne connaissent pas ce chemin. Comment tu peux dire ça de chrétiens qui ne connaissent pas ce chemin? C'est un petit peu, ça laisse perplexe. Mais ce que je vous propose ici, là, c'est que on voit là, dans Jean 6, on a chanté un chant aussi, c'est toi qui es à qui, Seigneur, quel autre? Irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et là, c'était la suite, là, en attendant. Jésus, beaucoup de ses disciples disent, ces paroles sont trop dures. Pierre avait dit, écoute, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais les autres disciples, ils appellent des disciples. Ils avaient connu le chemin de la justice. Ils avaient connu Jésus. Ils disent, ces paroles sont dures à entendre. Qui peut continuer à les écouter? Jésus s'aperçoit que ses disciples critiquent ce qu'il dit. Il leur demande, ces paroles sont un obstacle pour vous? Puis là, ça continue dans le texte, il dit, « Mais parmi vous, il y en a qui ne croient pas parmi les disciples. » En effet, Jésus connaît depuis le début ceux qui ne croient pas en lui parmi ses disciples et celui qui va le livrer parmi ses disciples. Fait qu'ils ont connu Jésus, le chemin qui mène à la justice, mais ils n'y ont pas cru pour s'y engager sur ce chemin-là. Ceux qui rejettent Jésus doivent avoir une connaissance de l'Évangile pour pouvoir la rejeter. Donc, ils ont connu. Fait que, c'est sûr, moi, ça, quand j'ai ça, je me deviens un peu plus, de plus en plus insécure. Je me dis, ouais, hein, ils avaient tout connu, eux autres. Puis, mais c'est pas ça l'idée. C'est pas pour se rendre insécure. Là, on continue le texte là, de Pierre qui parlait des apostats. Maintenant, ce qui leur est arrivé montre la vérité de ce proverbe. Le chien mange de nouveau ce qu'il a vomi puis qu'il rendait malade. Et le cochon qui vient d'être lavé recommence à se rouler dans la boue. Deux animaux impurs, selon la loi, et donc qui ne sont pas régénérés. Si on disait la colombe qui est retournée à son vomi, ça aurait peut-être été... Mais là, ces deux animaux ne sont pas régénérés, là, ces deux animaux impurs-là, qui sont retournés. Et donc, c'était pour parler de cette identité-là, des exemples d'apostats et de l'identité, c'est pas des chrétiens. Là, je pense à sauter un petit parti, mais ça revient ici. Mais l'Esprit dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Là, ça dit quelques-uns, puis dans 2 Timothée, là, ça dit, il y a des foules, puis les hommes abandonneront. Mais ici, c'était 1 Timothée, c'était quelques-uns, pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Par hypocrisie, de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, il y a ces faux docteurs-là qui ont des doctrines de démons, et que là, ça va comme une gangrène, comme un cancer, se répandre et devenir populaire. C'est contagieux. Ça se répand. Puis, il y a des dénominations protestantes principales, et même celles issues de la Réforme, l'Anglican, Église unie, luthérien, presbytérien, qui ont rejeté l'autorité de l'abbé. Puis, il y a une petite progression. Je trouvais ça intéressant, là. Tu sais, qui remet, la Bible n'est pas infaillible. Les miracles, on n'est pas sûr. La naissance de Jésus, d'une vierge. La divinité de Jésus, je suis pas sûr. Et puis là, on finit par tout rejeter. Puis être des églises apostates. Il viendra un temps où les hommes dans 2 Timothée, là, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant des démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ça se répand de plus en plus. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ici, là, et ça dit, ça va avancer. Attends-toi pas à ce que l'apostasie se réduise et que le christianisme authentique, biblique, prenne de l'ampleur. Oui, ça va grandir, mais le faux va grandir encore plus. Comme j'avais mentionné, un petit peu comme une cellule cancéreuse, et puis que ça devient comme des pôles d'attraction, un apostat qui attire une foule d'apostats autour de lui. C'est pourquoi là, qu'il dit ça? Pour nous faire peur? Ou c'est quoi l'idée, là? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. C'est pour ça qu'il nous le dit. Soyez pas séduits. Garde ton sens critique et biblique. Oui, mais la Bible dit pas ça. Puis ces manifestations-là, la Bible n'en parle pas. Pourquoi est-ce que c'était caché? C'est des fois des arguments avec les Mormons en rencontrant. Mais pourquoi est-ce que Paul en a pas parlé? Pourquoi est-ce que Jésus est ignorant de ces choses-là, si merveilleuses dont Joseph Smith a eu la révélation? Voyons donc, pense-y. C'est nouveau, c'est étrange. Et de pas se laisser séduire. Et c'est pour ça qu'il nous en parle. C'est ça, c'est quand même rassurant de se laisser guider. C'est pour ça qu'il nous en parle. Pourquoi l'apostasie? Il y a la foi ici, la profession de foi, mais qui passe par une épreuve et qui va amener un choix, des décisions par l'épreuve. Et c'est l'épreuve. Tu sais, il y a d'autres amours comme de l'argent. Puisque Jésus avait dit devant Judas, là, aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et ça, Judas l'entendait. Judas l'avertissait. Et pourquoi ce message-là ce matin? On n'est pas différent. Si des apostats pouvaient infiltrer le groupe sélect des 12 apôtres, je pense que peut-être que quelqu'un qui n'est pas authentiquement chrétien peut se sentir très bien dans une église évangélique. Et puis là, de s'amener à se questionner, est-ce que cet attrait pour l'amour de l'argent est là? D'autres amours, soi-même, celui qui vient à moi, doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme. Sinon, cette personne ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix, qui ne me suit pas, celui-là ne peut être mon disciple. Donc, il y a d'autres attachements, d'autres amours. Et c'est ça, il croit seulement pendant un moment seulement. Ensuite, quand il y a des difficultés, ils abandonnent. Et d'autres ici, c'est le souci. Les richesses, les plaisirs de la vie étouffent ce qui grandit en eux et ne peuvent pas porter de fruits mûrs. Donc, cette épreuve-là qui amène... Je vais aller un petit peu plus vite parce que le temps passe. Pour essayer de parler là, de critères de la vraie foi, puis essayer de mettre... OK, t'as une minute. Ça me remet en question, puis c'est correct. Tu sais, quand Jésus dit « l'un de vous me livrera », les gens se sont tous remis en question, puis ils n'ont pas empêché de se remettre en question. Peut-être c'est correct. Et puis, de se questionner. C'est ça, on les reconnaîtra à ce qu'ils font. On reconnaît à leurs fruits. Fait que regarde, questionne-toi sur tes fruits. Mettez-vous donc vous... excusez, j'ai pesé sur le mauvais piton. Vous-même à l'épreuve, examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. Oui, faites un peu votre examen de conscience. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous, à moins que cet examen ne tourne à l'échec et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. Je sais que des fois, les avertissements de la Bible, ça réconforte ceux qui devraient, ça devrait inquiéter, puis ça remet en question ceux que ça devrait encourager. C'est souvent ça, puis on est un petit peu nerveux, anxieux. « Hé, c'est-tu moi? » Mais et c'est pas fait pour ça. Là, il y a comme un questionnement face aux autres, puis un questionnement face à soi-même. Comment quelqu'un peut être hypocrite et menteur dans un groupe aussi sélect que les apôtres sans même que ceux-ci s'en aperçoivent? Bonne question. Pourquoi est-ce que quelqu'un se donne autant de peine à jouer le jeu pendant 3 ans ou 30 ans? Dois-je me méfier et questionner l'authenticité de tous les chrétiens? Et à ça, je dirais qu'on ne devrait pas soupçonner, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, car j'ai pas la capacité de savoir avec certitude, mais aussi de pas être surpris par le phénomène de l'apostasie. Regarde pas les autres, questionne-toi pas, juge pas, sois pas surpris par contre si ça l'arrive. Me laisser guider par les Écritures et non par l'apparence d'expertise en parlant de faux prophètes. Et face à moi-même, est-ce que moi aussi je pourrais tomber comme cela? Bien, je pense que les Écritures donnent une sécurité et une assurance aux croyants. Les promesses sont claires. Oui, il y a plusieurs avertissements, puis on doit s'examiner, mais c'est clair. Quand ça nous dit, là, oui, nos péchés peuvent être pardonnés. Oui, avec certitude, on peut savoir qu'on est né de nouveau. Et puis avec le temps, il va y avoir un tas d'autres preuves qui vont venir. Un amour pour Dieu et pour Jésus, le désir de sainteté, la haine du péché, l'amour des frères. Mais si j'ai pas l'amour des frères, peut-être que c'est bon de se poser des questions. Peut-être que c'est salutaire de se poser des questions. La manière de mener une vie droite, l'obéissance à Dieu, la séparation d'avec le monde. Si j'aime le monde, je suis attiré par ces choses-là. J'ai aucun intérêt pour les choses de Dieu. Puis je viens à l'église, mes amis sont là. J'aime tellement la musique, moi. La louange. Puis j'ai un ministère, j'aime mon implication. J'y retire quelque chose, ça paye, c'est bon. Ça me valorise. Mais c'est pas ça, la nouvelle naissance, nécessairement. Fait que si ces signes-là sont pas là, oui, on peut se poser des questions. Fait que faire si ça t'inquiète? Comme je disais tout à l'heure, les disciples ont été profondément attristés, puis se sont posé la question, chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Et puis, ce matin, c'est comme un message d'évangélisation pour ceux qui sont dans l'Église, pour des mauvaises raisons, pour la tradition, pour les amis, pour les chants, pour une implication de service. Il y en a, c'est comme leur royaume. C'est mon petit domaine où je contrôle. Moi, j'aime ça. Là, je m'implique, je me valorise là-dedans. Ça me fait tellement du bien. C'est à l'Église, ça satisfait ma conscience aussi. Mais c'est tout pour des mauvaises raisons. Mais c'est pas bon. C'est pas que c'est mauvais. C'est sûr que c'est bon, toutes ces choses-là. Mais est-ce que c'est la seule raison qui nous amène ici à l'Église? Mais ces personnes-là sont pas nées de nouveau. Et puis certains, pas tous, vont peut-être finir par délaisser. Puis il y en a d'autres qui vont se sentir super à l'aise jusqu'à la fin de leur jour à l'Église. Mais ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ils utilisent Jésus. Ils utilisent l'Église pour se valoriser. Cette parole-là, qui pouvait très bien s'appliquer à Judas, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur, il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé, c'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais, comme Judas a fait. C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. » Tout un méchant service, un ministère dans l'Église. « Alors, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Cette iniquité-là qui n'est pas jugée à l'intérieur. C'est ça, il y avait peu de différence entre Pierre et Judas. Mais Pierre n'entretenait pas le péché comme le fait Judas. Puis j'ai la chair, j'ai la vieille nature, j'ai des combats. Mais c'est de me juger de ces choses-là, puis pas entretenir ça. Ah ouais, c'est fun, hein? Non, non. Ah, Seigneur, libère-moi de ça, protège-moi, purifie-moi, je te demande pardon. Et de prendre position, même pour chaque pensée impure. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il y a un espoir pour tous ici ce matin. Il y a un espoir. Et pour nous purifier de toute, c'est beau ce tout-là, de toute iniquité, pour nous purifier, parfait, rendre pur de toute iniquité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui remplit ton cœur, le trou dans ton cœur, puis que c'est pas l'amour de Dieu? Puis, tu sais, ce qui me console, moi, ce qui me rassure, c'est, je sais, tu sais, j'ai le vieil homme, mais j'ai le nouvel homme aussi. Puis j'ai le Saint-Esprit, puis j'ai un amour pour Dieu. Puis ça, je veux l'encourager, je veux vivre pour ça. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et pour sauver ce qui était perdu. T'es-tu perdu? T'es-tu loin de Dieu? As-tu un vide? C'est pour toi. Il est venu pour toi. Alors, si quelqu'un est uni à Christ, il est créé à nouveau. Ça peut changer. C'est une force pour lutter contre cette vieille nature. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. J'aimerais ça qu'on termine maintenant, on va prier. Si tu as un doute dans ton cœur, c'est correct? Dis-le à Jésus, viens à lui, confesse tes péchés, abandonne ta voie, demande-lui d'entrer, il a la puissance pour te transformer, c'est correct. T'es à bonne place. C'est là pour ça. Reporte pas ça. Dis pas à plus tard. Serre pas ta sacoche puis ta Bible. On va prier. Seigneur grand Dieu, tu vois toutes nos pensées. Tu voyais même celle de Judas. Et le péché est attaché à notre cœur. Et cette vieille nature, ce vieil homme est encore là dans chacun de nous. Et Seigneur, on le confesse, on l'admet, on le juge, on s'en détourne. Et toi-même te dis que tu l'as crucifié à la croix. Sois loué pour ça. Et Seigneur, si tu n'as pas pris la décision, dis-lui, Seigneur, je veux venir à toi maintenant, j'ai vraiment besoin de ton aide. Peut-être que je viens à l'Église par tradition, mais j'ai pas cette nouvelle vie en moi. J'ai pas eu la nouvelle naissance. J'ai pas été. Toutes choses sont devenues nouvelles. Sont créées à nouveau. C'est pas vrai pour moi. Dis-lui, Seigneur, je te confesse mes péchés. Je te demande de me sauver. Rentre dans ma vie. Je t'invite. Je veux pas rentrer dans l'éternité sans toi. Merci que tu as la puissance de me sauver. Sois loué, Seigneur. Amen.